cet épisode a été enregistré le 29 septembre 2010. Architech est un podcast sur les sujets d'architecture technique en français. Retrouvez toutes les infos à blogs.msdn.com/architech. Je suis Benjamin Guinbertière, architecte en système d'information au sein de la division plateforme et écosystème.
Et je suis Thomas Comté, également architecte en système d'information dans cette même division qu'on appelle DPE.
DPE comme division plateforme et écosystème.
Exactement.
Alors de quoi on va parler aujourd'hui, Thomas ?
C'est quoi le sommaire ?
Alors d'abord, on va parler d'un white paper sur le BPM. Donc on va dire ce que c'est que le BPM.
Ah, on va expliquer.
Hein, et voilà. Et puis après, toi, tu vas nous parler d'autre chose, je crois.
J'ai pas parlé
d'un acronyme aussi.
Ah oui, j'ai un acronyme. Il est bien. En plus, c'est OGDI. Il se prononce à l'anglaise. Donc voilà, c'est Open Government Data Initiative, et c'est un package qui a pour but de diffuser facilement de la donnée.
D'accord.
Sur Internet via Azure.
D'accord. Donc D comme données alors.
Exactement.
Et puis ensuite, on passera à quelques nouvelles.
Fantastique.
Alors BPM. Donc. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? En juin dernier, j'ai écrit un document avec des collègues sur le BPM et entre autres la façon, enfin déjà à quoi ça sert, et puis ensuite comment est-ce qu'on l'implémente sur la plateforme Microsoft.
À quoi ça sert alors ? BPM, ça veut dire quoi déjà ?
Alors ça veut dire Business Process Management et c'est aussi lié à l'automatisation des processus dans l'entreprise.
D'accord. Donc, un rapport avec le workflow, ça,
Ah oui, il y a un rapport avec le workflow. Ah,
d'accord.
Donc, dans le white paper, il y a plusieurs parties, parce que j'ai fait un plan. Bon. Et du coup, il y a une première partie sur la problématique. Donc là, on commence par poser le problème. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de processus ? À la base, dans le système d'information de l'entreprise, on a des gros paquebots qui sont les applications. C'est-à-dire, c'est vraiment des choses qui mettent du temps à être mis en place, qui restent pendant longtemps, qui sont un investissement sur plusieurs années, voire des dizaines d'années. Et puis, à côté de ça, on a la demande du marché. Alors là, la demande du marché, c'est complètement le contraire. C'est faut que ça change du jour au lendemain. Bon. Et donc, entre les deux, il faut entre autres des processus qui permettent de faire l'intégration entre ce qu'on peut faire dans les différentes applications, vraiment le savoir-faire, le cœur métier de l'entreprise, et puis de l'autre côté, la demande du marché qui elle change. Donc ces processus, ils existent de toute façon dans l'entreprise et ils peuvent être manuels ou automatisés. Et donc, dans la partie automatisation, parce que c'est plutôt ça ce qui nous intéresse en l'occurrence, on va retrouver des mécanismes d'automatisation, bien sûr, mais qui vont s'appuyer eux-mêmes sur des mécanismes d'intégration pour être capables de s'adresser à toutes les applications qui ont, elles ont vraiment le savoir-faire. Et puis également, il va falloir communiquer avec les personnes.
Les personnes.
Voilà. Et donc, pour ça, il y a entre autres des outils tels que SharePoint.
Il faut une interface pour que l'utilisateur sache ce qu'il a à faire aujourd'hui, etc. Bon.
Et donc, on parle de cette partie-là. Ensuite, dans la deuxième partie, on va voir un peu tous les produits qui existent sur la plateforme Microsoft, certains étant presque concurrents. Ça permet de placer un peu dans un diagramme l'ensemble des technos. Donc on va avoir plein de technos du style Visio, Bistock, Workflow Foundation, Windows Server Fabric.
Ah oui, là il y a quand même beaucoup de choses.
Outlook, tout un tas de le BAM de Bistock également. Voilà. Donc l'idée c'est de montrer un peu comment tout ça peut s'interconnecter. Donc ce qu'on peut dire par rapport au diagramme qui est à la fin du white paper et qui est un peu une sorte de synopsis de tout ça, c'est qu'on va avoir les applications, donc nos paquebots, auxquels on va se connecter typiquement avec Bistock, puisque c'est la couche d'intégration. Les processus qui vont être automatisés en faisant appel à Bistock et non pas en faisant appel directement aux applications, parce qu'on a la problématique du separation of concern.
Ouais, bien sûr.
Et donc, Une fois qu'on a automatisé ces processus en faisant appel à Bistoke, donc l'automatisation elle-même va avoir lieu avec Workflow Foundation, hébergé lui-même dans Windows Server à fabrique typiquement.
D'accord. Qui permet de surveiller le workflow, exactement, de le sécuriser, etc.
De le faire tourner dans des fermes, des fermes pas avec des cochons, hein,
des fermes
web. Okay. Et puis il va y avoir une communication aussi avec les utilisateurs, donc là avec des entrepôts de tâches.
Ah la vache,
ouais.
Des entrepôts de tâches. Donc, d'accord, c'est un peu la boîte, l'inbox, mais orientée tâches.
Voilà. L'entrepôt de tâches le plus simple, ça pourrait être l'inbox mail.
Ouais.
Mais il y a comme entrepôt de tâches également des choses comme SharePoint, par exemple, avec des listes, où là, on peut s'abonner ou
pas. C'est pas très sain de gérer ses tâches à accomplir avec l'inbox mail. Il vaut mieux avoir quelque chose dans un portail, peut-être, avec une liste de tâches bien séparée sur laquelle on peut travailler.
Ouais.
Et qu'on peut synchroniser dans Outlook, même, séparément.
Donc effectivement, ça permet d'avoir plus la main sur le volume de mails qu'on reçoit, suivant qu'on y retourne tous les jours ou qu'on y va une fois tous les 15 jours.
Absolument.
Et puis au-dessus de tout ça, si on veut avoir une vue globale de ce qui se passe, il y a le BAM, c'est le Business Activity Monitoring, qui permet d'avoir une vue Business Intelligence BI des flux tels qu'ils s'exécutent, en fait, de à quelle étape on en est dans les processus, combien de temps ils mettent en moyenne, etc.
D'accord.
Donc voilà, en gros, ce qu'on raconte dans ce livre blanc.
Ben, ça a l'air bien intéressant.
Ouais. Je sais pas pourquoi on traduit white paper en livre blanc, mais bon. Moi, j'aurais traduit ça en papier blanc. Mais...
Et on trouve ça où, alors?
Alors, on trouve ça sur une URL qui est imprononçable.
D'accord.
Donc, qu'on mettra sur le blog.
Fantastique.
Voilà. Mais c'est sur le portail des décideurs.
Portail décideurs IT.
Exactement. Je te propose de passer à la deuxième partie, puisque après la première, tant qu'à faire. Hein.
Allons-y, on enchaîne.
Donc là, OGDI.
Alors OGDI, acronyme un peu long, là, Open Government Data Initiative, hein, OGDI. Ouais. Bon, OGDI, on le prononce à l'américaine, mais... Donc c'est un projet open source, on le trouve sur SourceForge.
Et
d'accord.
Ouais.
OGDI.sourceforge.net. On va aussi trouver une application d'exemple sur OGDI.sdk.cloudapp.net. Donc en fait, c'est l'open source, donc c'est un package comme prêt à l'emploi, mais avec une source, qui s'inscrit dans la mouvance open data. Donc open data, c'est quelque chose qui vient du monde scientifique, on va dire, qui aujourd'hui gagne aussi le monde des collectivités locales et des organismes publics en général.
D'accord.
Et qui vise globalement à dire, voilà, il faut que les données soient ouvertes, librement consommables, facilement par tout le monde, de façon à ce que chacun puisse, alors dans le monde scientifique, évidemment, c'est effectuer de la recherche dessus, et dans le monde plus citoyen, et ben, c'est que chacun ait accès librement à l'information.
C'est quoi comme données, par exemple?
Alors, par exemple, typiquement, on peut imaginer pour les collectivités locales des choses comme des statistiques sur les écoles, la criminalité, la qualité de l'air, de l'eau, etc.
Ah,
etc.
Oui, d'accord, hein.
Tout un tas d'informations qu'aujourd'hui on trouve librement, mais souvent c'est dans des rapports papier, sur des formes assez statiques. Et là, l'idée de Open Data, c'est de faire en sorte que ces données soient facilement accessibles par tout le monde et que n'importe qui, avec Excel ou même un navigateur, puisse se faire sa propre analyse. D'accord. Donc, par exemple, projeter des données de criminalité sur une carte ou bien rapprocher, je sais pas quoi, la qualité de l'air par rapport au nombre d'arbres par kilomètre carré.
Ah oui.
Et que chacun puisse faire ce type d'analyse soi-même.
Donc l'idée c'est d'avoir les données mais sous forme exploitable informatiquement.
Exactement.
De façon à ce qu'on puisse pouvoir en faire quelque chose et les voir suivant sa propre perspective.
Exactement, sur différents angles.
D'accord.
Alors on imagine globalement deux applications. Hein. Il y a les power users, donc l'utilisateur, c'est l'utilisateur qui va être juste avec un navigateur, il connaît peut-être un peu de JavaScript ou simplement il sait manipuler de l'Excel, il va pouvoir lui prendre ses données brutes et puis construire, alors ce qu'on appelait, on appelait ça des mashups, mais bon, le terme est un peu parti, il va simplement combiner différentes sources de données avec peut-être de la cartographie, etc.
D'accord, donc c'est l'utilisateur puissant.
Voilà, le power user. Ouais. Et puis après, il y a l'utilisateur final, il va plutôt consommer quelque chose qui est peut-être tout fait. Donc quelqu'un qui a fait, sur son site, une projection de certaines données sur une carte ou autre. Donc,
c'est vrai que dans les mashups, en général, on parle pas mal des cartes parce que c'est une bonne façon d'avoir quelque chose de très graphique et de donner vie à des données. Je crois qu'il y a on arrive à voir des ports de pêche au milieu du Sahel, par exemple.
Tout à fait. On fait des choses assez intéressantes. Hein. C'est vrai que la précision de la donnée de géolocalisation est importante pour avoir quelque chose de qualité. Donc, au GDI, en fait, dedans, il y a deux composants. Il y a une partie qui expose des services en OData. D'accord. Ouais. Donc OData, c'est un protocole ouvert, défini par Microsoft, mais qui est donc on trouve sur odata.org, ouais. Et qui s'appuie, en fait, c'est pas vraiment un nouveau protocole, c'est des choses très connues comme HTTP, Atom étant une forme de RSS, et simplement on a essayé de cristalliser un peu des bonnes pratiques.
C'est du web service REST.
C'est du REST, absolument.
Ouais, du REST.
Alors c'est orienté données quand même, c'est pas trop orienté procédural, c'est plutôt orienté accès à des données, et ça permet donc de faire des filtres. Des tris, etc. sur des données, donc de requêter de la donnée puis de la récupérer à un format pivot simple qui est de l'OData, qui est en fait du XML un peu.
Par rapport, juste une parenthèse sur l'OData, par rapport au REST pur et dur, ce que ça ajoute, c'est il y a un dollar metadata qui permet de générer du code automatiquement, enfin dans.
Oui, alors en fait, il y a un aspect effectivement découverte dynamique de la structure de données.
D'accord.
Donc effectivement, on peut mettre à la fin un dollar metadata, à la fin de l'URL. Ça vous renvoie un document XML au format EDM, donc c'est le format utilisé par l'Entity Framework, d'accord, et qui décrit finalement les sources de données et puis leur structure, donc les propriétés, est-ce que c'est un entier, une chaîne de caractères, etc. Et donc avec ça, effectivement, on peut dynamiquement découvrir la forme du flux et puis après générer du code ou des choses comme
ça. On pourra faire un épisode complet sur OData.
On pourrait faire un épisode complet sur OData. Et dans le cas de OGDI, donc il y a cette partie qui expose purement du service, et puis il y a ce qu'on appelle un SDK interactif. Donc ça, c'est la partie qui serait utilisée par l'utilisateur final ou le power user pour requêter la donnée et l'explorer. D'accord. Donc on peut regarder on peut voir des colonnes de données, faire des filtres. Donc déjà on peut explorer la donnée, mais alors elle reste assez brute. Mais par contre après, toujours avec ce SDK, on peut la réutiliser, donc la projeter sur de la carte. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut générer très facilement le code, que ça soit de la ASP.NET ou du PHP, du Python, du et j'en passe et des meilleurs, du Java, etc. On peut générer le code client.
Donc Java est meilleur que Python, c'est ça ce que tu dis?
Non, c'était dans l'ordre au hasard. Donc ça va générer automatiquement le code client. Donc après, vous faire copier-coller, par exemple pour du JavaScript, si on veut se faire un mashup web, ou si on veut se faire un client dans un langage quelconque, on fait copier-coller du code et vous avez directement le code client qui fonctionne et qui requête les OData et qui vous le renvoie de façon. Donc c'est assez intéressant après pour se construire, consommer ces fameuses données ouvertes. Ce qui est également intéressant de OGDI, c'est l'architecture, la façon dont c'est construit. Donc ça s'appuie sur Azure.
Ouais.
Donc c'est un package déployable dans Azure, et a priori que dans Azure. Donc l'intérêt de ça, c'est...
C'est pour ça que tu disais qu'il y avait une URL où on pouvait le tester, parce qu'en fait, il a déjà été déployé une fois.
Exactement.
De façon à ce qu'on puisse regarder ce que ça donne.
Il y a des flux d'exemples, etc.
Ouais, ce qui donne une intuitive un peu plus rapide que juste du code.
Oui, quand même. C'est pas mal de d'abord d'explorer un peu visuellement avant de tout de suite générer le code. Sinon, c'est effectivement.
D'accord. Et donc ça a été déjà instancié une fois sur Azure, mais l'idée, c'est que chacun prenne le code. Le modifie éventuellement ou pas.
Voilà.
Et se le déploie sur Azure avec ses propres données.
Exactement. Et l'idée, c'est d'accélérer. L'idée d'Open Data, c'est que ça soit facile non seulement de consommer, mais aussi d'exposer la donnée. Donc, c'est-à-dire qu'une mairie, une petite mairie de province, on va dire qu'il n'y a pas des moyens informatiques énormes, puisse exposer des données facilement.
Oui.
Et donc là, avec Azure et le cloud en général, c'est fait pour ça quelque part. Donc on prend le package, on ouvre un service Azure, on le déploie dedans et on est prêt à partir. Il y a également une petite interface utilisateur, un petit client qui sert à charger les données facilement, donc sans avoir à faire du code, on prend un CSV ou un Excel et on le charge dans Azure. Donc vraiment, on peut facilement faire, avec peu de moyens informatiques, on va dire, cette plateforme d'exposition de données.
D'accord.
Et après, techniquement, la façon dont ça fonctionne est assez intéressante, puisque donc ça s'appuie sur Azure et ça utilise une caractéristique des tables Azure qu'on voit pas forcément si on utilise un SDK, qui est que les tables Azure renvoient leurs données au format OData. D'accord. Donc quand on utilise le client .NET, le storage client standard, bien, on s'en rend pas compte puisqu'on manipule directement les objets .NET, mais en dessous en fait c'est quelque chose qui est un peu dérivé de WCF Data Services, donc c'est de l'OData. Voilà. Donc le OGDI utilise cette caractéristique et ils ont un web role qui fait un peu proxy, il y a un HTTP handler qui attrape les requêtes et qui les transmet au table storage qui récupère de l'OData.
D'accord.
Fait quelques petites manipulations dessus et le renvoie. Parce qu'il y a une caractéristique quand même qui empêche d'accéder directement au flux OData des tables, c'est que les requêtes pour les tables Azure doivent être obligatoirement authentifiées.
Oui.
Il faut qu'il y ait une shared key dedans. D'accord. Donc là, ce proxy, eh bien, il gère les accès anonymes.
Si je passe, passe ta shared key à ma grand-mère pour qu'elle regarde la qualité de l'air, ça va pas.
Non, ça va pas être pratique. Ouais. Voilà. Donc ça simplifie l'accès là, et ça le rend accessible à tout le monde. Et donc une caractéristique intéressante des tables, cet accès aux data. Et le frontal, lui, utilise ce service, eh bien, pour aller reformater tout ça en CSV, en Excel, etc.
Voilà
pour OGDI. Mmh.
Bien, passons aux nouvelles.
Les nouvelles du jour.
Les nouvelles du moment. C'est pas forcément du jour,
hein,
parce que de là à dire que Bistock est sorti vraiment aujourd'hui, Bistock Server 2010, donc il est sorti dans sa version RTM, Release to Market.
Fantastique.
Donc ça fait des nouvelles choses, parce que c'est une nouvelle version. Et entre autres, j'ai choisi deux fonctionnalités pour en parler rapidement. Juste le fait qu'il y ait une intégration avec Windows Server App Fabric, puisque comme on a vu dans le white paper,
BPM,
il y a des liens presque concurrents de temps en temps entre Bistock et Windows Server App Fabric. Donc là, l'idée, c'est de dire Bistock Server commence à augmenter les capacités de Windows Server App Fabric. Et donc, par exemple, dans Workflow Foundation, on va être capable de se connecter à un serveur Oracle Application, où on va être capable de se connecter à des systèmes avec lesquels on se connecterait pas autrement. Donc, on utilise des adaptateurs de Bistock et c'est intégré. Il y a également le mapper pour modifier des documents XML qui viennent d'un endroit pour les envoyer à un autre, etc. Et puis, deuxième fonctionnalité sur laquelle j'ai voulu faire un point, c'est le TPM, le Trading Partner Management. Donc là, l'idée, c'est de dire que quand on est en relation dans un mode B2B avec un grand nombre de partenaires, il y a une base de données dans Bistock qui permet de gérer ses partenaires et donc d'être capable d'authentifier typiquement le flux qui arrive pour dire c'est tel partenaire ou tel groupe de partenaires. Voilà. Et donc ça a été amélioré de façon à pouvoir passer à l'échelle, enfin avoir un plus grand nombre de partenaires et que la gestion soit plus simple. Voilà, c'est le truc qu'on attendait tous. Et ben voilà.
Et voilà, il est arrivé.
Et autre sortie.
Autre nouvelle, les outils développeurs Windows Phone sont sortis en version finale.
Ah ah.
D'accord. Donc ils étaient en bêta depuis cet été.
D'accord.
On a maintenant la RTM. Alors non seulement l'OS a été finalisé et livré au constructeur.
Ouais.
Et maintenant pour les développeurs, les outils sont disponibles.
Ouais.
En version finale. Et on a également un Silverlight Toolkit. Spécifique Windows Phone avec un certain nombre de contrôles additionnels, notamment des contrôles de saisie de date, des contrôles un peu plus évolués que les contrôles qui sont en standard dans la version Silverlight Windows Phone.
Oui, parce qu'on peut développer avec au-dessus de deux stacks dans Windows Phone.
Absolument. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à me concentrer plutôt sur un petit Silverlight qui sert à des applications, va dire plus métiers, avec de la saisie, etc. Mais effectivement, il y a le framework Xena également qui sert plus à développer des jeux.
Oui, d'accord. Voilà. Très bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Sais-tu comment s'appelle la release candidate de la VNX de Microsoft Office Communication Server 2007 R2?
Oh là là,
AK OCS.
Là, j'ai déjà perdu. Aucune idée. Ça a changé de nom? Pourquoi?
Je sais pas. On a dû simplifier le truc.
Ah,
je
pense. Tu crois que c'était un peu long?
Ouais, maintenant ça s'appelle Link.
Avant, ça s'appelait pas Mox.
Ah oui, il y avait Mox aussi.
Ah, Mox, c'était
pas... Là, c'est Link.
Ah, là, c'est mieux.
Puis je sais pas, ça donne, ça évoque un peu une notion de connexion aussi.
Peut-être, de lien, d'accord.
Donc voilà, donc on a des choses comme Link, ça s'appelait que Microsoft Communications avant. Alors on a quand même des Link Server 2010, Link Online, Link 2010, Link Web App.
Oui, mais il y a moins d'acronymes quand même, c'est bien.
Ouais. Donc voilà, on est passé sur des acronymes à quatre lettres.
Oui, si on insiste, vraiment.
Ouais.
Link, ça va, Link tout seul,
ça, c'est bien. Et puis, dernière nouvelle, on va organiser le 10 novembre après-midi un événement en ligne qui s'appelle Retour sur la PDC 10. La PDC, c'est...
La PDC, la Professional Developers Conference.
Voilà.
Alors qu'il n'a pas encore eu lieu. Hein.
Non, elle a eu lieu les 28 et 29 octobre.
28 et 29 octobre, d'accord.
Donc deux semaines après. On fait donc en France, sous forme de live meeting principalement, et un retour sur la PDC en une après-midi.
D'accord.
Donc il y aura l'intervention de Bernard Auguin-Lyon, qui est donc le directeur technique et sécurité, également le chef de ton chef.
C'est vrai.
Et le mien aussi d'ailleurs.
Absolument.
Et donc c'est le 10 novembre et vous pouvez vous inscrire sur http://. bit.ly/rotpdc10.
Ah ben voilà, qui est facile à retenir.
C'est simple, hein. Voilà, c'est tout pour cette fois. Retrouvez les liens sur blogs.msdn.com/architech. Au revoir et
à la prochaine fois.